l'intérieur d'un chacun, fils de Dieu. Mais la manière dont ce salut nous advient est tout à fait personnelle. Et donc, une comparaison entre le salut de l'un et le salut de l'autre est tout à fait oiseuse. Hein, oiseuse, hein, comparaison. Donc, c'est à ce niveau-là que les choses se situent. Nous pouvons nous comparer seulement à Jésus, à ce que Jésus fait. C'est-à-dire, nous pouvons nous comparer à ce que Jésus va faire en nous, à notre avenir tel qu'il est regardé dans le regard de Jésus. Ça, c'est la bonne comparaison. Mais la comparaison avec Pierre ou Paul ou André ou François, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce que Saint Jean nous dit d'une autre manière, lorsque vous avez Pierre et Jean après la résurrection, et que Pierre demande à Jésus, et lui, qu'est-ce qui va lui advenir? Jésus dit, t'occupe pas du chapeau de la gamine, pousse la voiture. C'est pas ton affaire. Ce que Jean va venir, c'est ce mystère. Toi, tu as ton mystère. Reçois ton mystère jusqu'au bout, dans l'espérance que je te donne. Oui. Alors, ici, vous voyez, cette comparaison intervient tout de suite, parce qu'entre les hommes, elle intervient tout de suite. Capharnaüm, Israël. Et Israël semble un peu jaloux que Capharnaüm ait reçu la primeur des miracles de Jésus. Or, justement, ce que Jésus manifeste dans sa réponse, c'est regardez, c'est évident que Élie et Élisée ont travaillé pour Israël, tout le monde le sait. Mais Jésus va justement épingler deux miracles, un d'Élie et un d'Élisée, pour des gens du dehors. Mais ouvrez-vous donc à l'universalité. Ne restez pas enfermés dans votre position. Découvrez votre avenir et vous découvrirez-vous votre avenir dans l'autre, dans ce que vit votre frère. Ce que vit votre frère, c'est votre avenir. Vous êtes fait pour participer avec votre frère à la construction de l'Église. Nous ne pensons pas à l'Église, hein, comme le disait Michel hier, nous pensons à l'individu. Et nous pensons qu'une communauté, c'est un agglomérat d'individus qui recherchent chacun pour soi le même Esprit Saint ou le même Jésus. Mais ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Ça, c'est la Société des Nations ou l'ONU. Mais non, nous avons à rechercher ce qui nous est donné. L'unité nous est donnée. Et l'unité nous est donnée dans ce va-et-vient entre l'Esprit et Jésus. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit même de Dieu et qui unifie, et le corps du Christ qui est divers et qui ressuscite. Et en raison de ce corps du Christ, la réalité concrète et historique a du sens et il est légitime que nous passions par elle. Mais cette réalité concrète et historique n'est pas aussi idéale qu'elle ne peut apparaître dans le regard de Dieu et dans l'Esprit. Elle est la nuée qui nous cache la présence du ressuscité. Nous l'avons mis dehors, il reste dehors, il agit. Et donc, vous voyez, le Saint-Luc, et surtout dans ses Actes des Apôtres, va constamment partir de réalité concrète, enracinée dans l'histoire, dans une histoire repérable. Il nous donne des dates, il nous parle de personnes concrètes, on peut même recouper certains de ces passages avec ceux de Flavius Joseph, et dire, tiens, ceci s'est passé vraisemblablement entre 51 et 52, par exemple. Hein? Donc, il peut être extrêmement précis. Mais, il nous dit, attention à cette précision-là, parce qu'elle est trompeuse. Cette précision-là ne vous dit rien sur la profondeur du mystère qui est vécu. Et un texte extrêmement évocateur à ce sujet-là, c'est précisément le récit circonstancié qu'il nous fait du voyage naufrage de Paul. Sur le plan de l'histoire, et j'ai lu plusieurs articles de la marine, connaissent bien
le maniement des voiles et des bateaux, même à cette époque-là, des historiens aussi de la marine, ils vous diront, sur le plan des termes utilisés pour les vents, pour les voiles, etc., Paul est absolument parfait. Et les manœuvres qu'il décrit sont des manœuvres qui existaient à l'époque. Sur ce plan-là, 10 sur 10. Et pourtant, ce récit, bien circonstancié et bien enraciné dans la réalité de l'histoire, a une profondeur de parabole. Et constamment, quand vous regardez les termes qu'il utilise, vous analysez cela de très près, si vous comparez au récit d'Emmaüs, comme je vous le disais hier, il nous tire de cette réalité concrète et sensible à travers laquelle nous avons à passer, et il nous tire un sens profond. Dans les Actes des Apôtres, au départ des Actes, il nous dit bien sûr la croissance de la première communauté de Jérusalem. Nous n'avons pas encore vu les difficultés majeures de cette communauté, mais vous aurez remarqué qu'il nous dit les choses de manière aussi parabolique, en nous parlant de la Pentecôte et de la guérison d'un homme qui est remis debout, comme Jésus est debout. Entre les deux, il nous a parlé de la communauté qui est construite sur quatre, à peu près les trois piliers d'Israël, construite sur des piliers, donc en continuité avec Israël. Il nous fait un tableau tout à fait idyllique de cette communauté. Et puis au chapitre 5, il dit, attention, ne nous y trompons pas. Cette communauté n'est pas aussi idyllique que vous pourriez le penser. Dans cette communauté idyllique, il y a constamment des personnes, nous en l'occurrence, qui faisons intervenir la mort au cœur de cette vie. Cette mort est toujours présente. Pourquoi ? Parce que les instincts des hommes sont meurtriers. Et justement, l'Évangile et les Actes des Apôtres nous dévoilent constamment nos instincts meurtriers. Non pas pour nous condamner, mais pour nous montrer jusqu'à quelle profondeur, jusqu'à quels enfers de notre liberté le nom du Seigneur doit parvenir. Jusqu'où nous avons à être immergés. Et c'est un travail qui dure toute une vie, hein. On n'a jamais fini. Et voyez, quand on essaie de vivre à cette profondeur et de dire les choses à cette profondeur, on est nécessairement condamné. Condamné par qui ? Ici, c'est par le Sanhédrin. Et ce n'est pas pour rien que c'est le même Sanhédrin que celui qui a condamné Jésus. Le disciple est condamné parce qu'il est, il représente, en continuité avec Jésus, il représente Jésus vivant. Il est son porte-parole, porte-parole de grâce. Et vous avez, je reprends là où j'en étais hier, s'étant dressé le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, et ici, Luc va le noter, ceci étant le parti des Sadducéens. Il y a des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Prétendument, parce qu'on ne parlait pas de résurrection dans la Torah, donc dans les cinq livres de la loi, alors que les Sadducéens n'admettent que les cinq livres de la loi, c'est-à-dire ils n'admettent que la Torah. Ce sont eux qui sont légalistes, hein, pas les pharisiens. Ils n'admettent que la Torah et ils n'admettent pas l'explication, l'interprétation de la Torah que les pharisiens admettaient. Les pharisiens admettaient la résurrection des morts, mais à la fin des temps. Alors ici, ce sont ceux justement qui ne veulent pas entendre autre chose, qui ne veulent pas entendre le discours sur la résurrection et qui se ferment à ce discours. Alors qu'ils sont en train de vivre la résurrection. Puisque ces disciples devant lesquels ils se trouvent et qu'ils sont en train de juger
leur redisent la présence de Jésus. C'est le Jésus qui a été condamné, qui est de nouveau devant eux. Il n'y a pas moyen de le mettre dehors.
Et ils jetèrent les mains sur les apôtres, et ils les mirent sous bonne garde publique. Or, un ange du Seigneur de nuit ouvrit les portes de la prison. Il le fait toujours, d'ailleurs. L'ange du Seigneur ouvre toujours les portes de prison. C'est Jésus de Nazareth qui ouvre les prisons des captifs.
Dis-nous où tu te trouves exactement.
Ah, je me trouve en 5-19. 5-19, là où j'étais resté hier. Et les ayant emmenés dehors, il dit, cette route sans cesse, ayant été mis debout. Comme l'homme, le boiteux avait été mis debout, ils sont aussi mis debout. Parler sans cesse dans le temple, au peuple. Toutes les paroles événements se disent. Il ne faut rien dire d'autre. Or, ayant entendu, ils entrèrent à l'aube dans le temple et ils enseignaient. Or, s'étant rendu à la porte, le grand prêtre et ceux avec lui convoquèrent le Sanhédrin et toute l'assemblée des anciens, des fils d'Israël, et ils envoyèrent des gens au cachot pour qu'ils soient amenés. Or, les hommes de service, y étant rendus, ne les trouvèrent pas dans la prison. Or, ayant fait demi-tour, ils rapportèrent, disant, le cachot. Nous le trouvâmes fermé en toute solidité, et les gardiens debout aux portes, ayant ouvert au-dedans, nous ne trouvâmes personne.
Et qui nous parle en même temps du tombeau de Jésus, là. Le tombeau gardé, mais il n'y a personne dedans. Alors, nous sommes sur le plan de l'histoire, et nous sommes sur le plan de la réalité profonde de l'histoire. Ne me demandez pas comment ils ont été, comment les portes de leur cachot ont été ouvertes. Je n'en sais rien. Le texte ne nous le dit pas. D'une manière ou d'une autre, ils ont été libérés. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est le sens de la chose. Ces hommes, ces apôtres que les hommes emprisonnent, sont libres. Pourquoi ? Parce que la parole est libre. Mais la parole passe à travers. Le cachot, nous l'avons trouvé en toute solidité, fermé, et les gardiens au poste, aux portes, ayant ouvert, nous n'avons trouvé personne. Et comme ils avaient entendu ces paroles, le stratège du temple, c'est-à-dire le chef de la gendarmerie du temple, et les grands prêtres étaient perplexes à leur sujet. Comment ceci arrivait-il ? Quel est le sens de l'événement ? Arrivait-il ? Or, s'étant rendu auprès d'eux, quelqu'un leur rapporta, « Voici les hommes que vous avez mis en prison dans le temple, se trouvent debout et enseignent le peuple. » Alors, s'étant éloigné le stratège avec les hommes de service, les amenait, non avec violence, car ils craignaient le peuple, comme à l'époque de Jésus, afin qu'ils ne soient pas lapidés. Les ayant amenés, ils les placèrent debout dans le Sanhédrin, et le grand prêtre les questionna. Vous retrouvez le procès de Jésus derrière celui-ci. Disant, n'est-ce pas par injonction que nous vous enjoignîmes de ne pas enseigner sans cesse en ce nom ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez mener sur nous le sang de cet homme ? Or, ayant répondu Pierre et les apôtres, dit, il faut se soumettre sans cesse à Dieu, plutôt qu'à des hommes. C'est-à-dire qu'il faut voir, il faut avoir le juste regard sur les événements. Pas le regard des hommes, mais le regard de Dieu. Même si la christologie d'en bas est importante, c'est par là qu'il faut partir. Elle ne vous donne pas le secret des choses. Le Dieu de nos pères, Dieu de nos pères, bien enraciné dans la tradition d'Israël, éveilla Jésus, que vous aviez malmené, l'ayant suspendu à la voix. Celui-ci, Dieu l'exalta par sa droite, comme initiateur et sauveur. Vous voyez les termes qu'on donne à Jésus, hein, qui sont une sorte d'hésitation sur les termes à lui donner, à lui attribuer.
pour donner à Israël conversion et rémission de péché. Voilà la véritable libération. Et nous, nous sommes témoins de ces paroles événements et de l'Esprit Saint que Dieu donna à ceux qui lui sont soumis. Autrement dit, en nous, vous voyez la personne de Jésus vivant. En renonçant leur salut.
Reconnaissez-la ou reconnaissez-la pas, ça c'est comme vous l'entendez.
Et eux, ayant entendu s'exaspérer, ils décidaient de les faire périr. On n'a que faire de Jésus. Or, s'étant dressé dans le Sanhédrin, un certain pharisien,
hein, Luc, hein, comment Luc nous tient le suspense, un certain pharisien, il a parlé de Sadducéens jusqu'ici, il va parler maintenant de quelqu'un qui croit à la résurrection. Et c'est pas n'importe qui, le bonhomme. Du nom de Gamaliel. Et Gamaliel, c'est précisément le maître de Paul. Mais il tisse ses fils. Il nous parlera de Shaoul au chapitre 9e, mais il est déjà en train de redonner, déjà au chapitre 7e. Donc de Gamaliel, docteur de la loi, honorable parmi tout le peuple, ordonna de faire mettre dehors un bref moment les apôtres. Et il dit à leur adresse, homme israélite, il parle comme Pierre, hein, prenez sans cesse garde à vous-même à propos de ce que vous allez agir au sujet de ces hommes. Car avant ces jours, se dressera Théudas. On va reprendre une histoire que vous retrouvez d'ailleurs dans Flavius Joseph. Il y a eu plusieurs révoltes contre Rome. Il y a eu plusieurs mouvements, dont ce mouvement d'un certain Théudas et ce mouvement d'un certain Judas le Galiléen. La plupart des mouvements partaient de Galilée. C'est d'ailleurs parce qu'il y avait eu un mouvement de révolte à Séphoris, dont je vous ai parlé hier, que Ponce Pilate avait fait raser la ville. Il n'avait pas de bulldozer, mais il le faisait brûler, c'était la même chose que aujourd'hui. Quand on a assez de villes qui fait problème, on la rase. Avant ces jours, se dressa Théudas, disant que lui-même était quelqu'un. Quand on s'oppose, on dit toujours qu'on est quelqu'un. Sur qui fut appuyé un certain nombre, un nombre d'environ 400 hommes. On fit périr celui-ci, et tous ceux qui se laissaient persuader par lui furent dissous et devinrent rien. Il se disait quelqu'un, il devait rien. Après celui-ci, se dressa Judas Galiléen, au jour du recensement. Tiens, on nous rappelle Pyrrhus, hein, de l'Évangile. Et il entraîna du peuple derrière lui. Celui-là aussi se perdit, et tout autant qu'il se laissait persuader, par lui furent éparpillés. Et maintenant, je vous dis, les discours prophétiques se dessine généralement de cette manière-là, il faut un « et maintenant » qui arrive. Je vous dis, retirez-vous de ces hommes et laissez-les. Si éventuellement ce dessin ou cette œuvre, les deux termes qui vont être utilisés pour l'Église, ce dessin ou cette œuvre est des hommes, elle sera détonée. C'est-à-dire, elle finira de sa belle mort. Or, si elle est de Dieu, vous ne pourrez pas la dételer. Et que jamais vous ne vous soyez trouvés combattant contre Dieu. Ils furent persuadés par lui. Et ayant appelé à eux les apôtres, leur ayant porté les coups, comme à Jésus, ils n'ont rien fait, mais bon, quand même, ils leur donnaient quelques coups, pour leur apprendre, hein, comme on dit. Ils leur enjoignirent de ne pas parler sans cesse au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Ceux-ci donc faisaient route de la face du Sanhédrin, comme Jésus, hein, qui avait menacé d'être jeté à bas, hein, de Nazareth, et passant à travers eux, faisait route, de la face du Sanhédrin, se réjouissant parce qu'ils avaient été jugés dignes d'être déshonorés en raison du monde. Se réjouissant. La joie de la persécution qui est promise, hein, au chapitre 6e, et chaque jour dans le temple et de maison en maison, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de point le Christ Jésus. Et ils l'annoncent par ce qu'ils sont. Donc, vous voyez, il fallait arriver jusque-là pour voir comment le destin de Jésus passe à travers le destin du disciple. Et c'est ce destin du persécuté qui va être le signe, à la preuve, le signe du ressuscité dont ils vivent, le nom, comme c'est dit dans le livre. Il utilise constamment le mot juif, hein, Hachem, pour ne pas parler de Dieu, le nom. Mais le nom dit plus que Monsieur Untel. Le nom dit sa réalité profonde, le mystère dont il est porteur devant Dieu. Dieu seul est capable de dire notre nom en vérité. Et Dieu seul nous donne, en fait, notre nom. C'est pour cela que, même dans la tradition juive, on ne donne pas un nom à l'enfant avant qu'il ne soit né, parce qu'on lui imposerait un nom qu'on aime. Il faut d'abord que l'enfant soit né et que pendant 8 jours, on le regarde, on l'observe, on le contemple pour essayer de découvrir quel est le mystère qu'il porte en lui. Et le nom qu'on doit lui donner, c'est le nom qu'il nous révèle. Dit autrement dans l'Évangile, le nom de Jésus, c'est le nom qui est donné par l'ange. C'est-à-dire, le nom ne vient pas de nous, le nom vient de Dieu. Et toutes sortes de choses que nous ne découvrons pas immédiatement en profondeur, mais qui sont quand même importantes. Alors, il faut que nous arrivions jusqu'à Étienne. Parce que Étienne va vivre la même chose. Mais il va la vivre d'une certaine manière. En ces jours, comme les disciples se multiplient, on voit deux choses. Dans ce chapitre 6, acte 6 et 7, c'est un peu comme le passage, le sas qui nous fait passer des 5 premiers chapitres à la mission qui va commencer après. Chapitre 8. Nous avons d'abord 12 plus 7. Les 12 ne suffisent pas parce qu'on parle déjà deux langues à Jérusalem. Nous ne sommes pas le seul pays où on parle deux langues. À Jérusalem même, on parle. Alors, il y a les Grecs, il y a les Hébreux, on les appelle les Hébreux. Les Hébreux, ce sont ceux qui parlent araméen, et les Grecs, ce sont ceux qui parlent grec. Les Hébreux, ce sont ceux qui sont nés dans le pays, et les Grecs, ce sont ceux qui viennent de la diaspora. Il y a déjà deux théologies différentes dans le judaïsme. Celle de Jérusalem, qui est plus étroite, plus conservatrice, dirions-nous aujourd'hui. Celle des gens qui vivent dans la diaspora, il faut quand même faire avec, hein, avec les gens là où on vit. Et donc, qui sont en quelque sorte plus assimilés, plus tolérants, plus ouverts, plus progressistes, dirions-nous aujourd'hui. Donc, ça fait deux mentalités qui sont présentes dans deux langues différentes. Comme j'ai dit. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de Grecs, juifs grecs, marchands, armateurs, commerçants, des gens d'agence de voyage ou autre, qui étaient venus habiter Jérusalem, où il y avait des centres, où ils avaient des filiales. Mais ils parlaient grec. On parlait grec à Jérusalem. Un peu comme on parle. Ce n'était pas la langue habituelle, la langue du peuple était l'araméen, mais tout le monde connaissait, comme aujourd'hui, tout le monde connaît un peu d'anglais, on connaissait suffisamment le grec pour pouvoir parler avec les gens qui venaient d'ailleurs. Seulement, quand le mari était décédé, et que la femme était seule, et qui, elle, restant davantage à la maison, connaissait peut-être moins le grec, ça devenait plus difficile, les relations dans les communautés devenaient plus difficiles. Et ça risquait de former des clans. Les gens qui parlent une langue et les gens qui parlent une autre. Comme les disciples se multipliaient, arriva un murmure. Ce murmure, évidemment, ça nous renvoie au murmure des Hébreux que Moïse conduisait dans le désert. Quand ils n'avaient pas à manger, quand ils n'avaient pas à boire, qu'est-ce qui se passe? Il y a une revendication des gens aujourd'hui. Voilà. Et donc, nous retrouvons quelque chose du désert, c'est-à-dire une incompréhension. Arrivé un murmure des hellénistes,
aller à l'adresse des Hébreux. Parce que dans le service journalier, leur veuve est à négliger. On donne de préférence à ceux qui parlent en même temps, le autres. Or, les douze ayant été appelés auprès d'eux, oui, d'abord on va chez les douze. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont l'esprit de Jésus. Les douze sont un chaînon indispensable. Ils ont vécu avec Jésus depuis le début, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé. Et donc, ils sont témoins de l'esprit dont vivait Jésus. Donc, maintenant, ils vont pouvoir discerner, dans une situation donnée, l'esprit de Jésus. Comment Jésus agirait-il? Disons plus simplement, comment Jésus ressuscité agit-il dans une communauté? Les douze ayant été appelés auprès d'eux, la multitude des disciples, ayant appelé auprès de la multitude des disciples, donc la grande assemblée, dire il n'est pas satisfaisant que nous ayant abandonné la parole de Dieu, nous sommes soumis à la parole, nous servions aux tables. D'abord le ministère sacerdotal, s'il vous plaît, le ministère de la parole. Avant les œuvres sociales, dirions-nous aujourd'hui. Bon, pas tout de suite s'occuper des œuvres sociales. C'est ça que dit là, semble-t-il. On y revient. Or, cherchez, frères, sept hommes parmi vous. Sept, le chiffre des païens, le chiffre de l'histoire, sept hommes parmi vous, auxquels on rend témoignage, plein d'esprit et de sagesse. Comme Jésus était plein d'esprit et de sagesse, il faut être plein d'esprit et de sagesse. Pourquoi sagesse? Ben, il va falloir distribuer les biens. Qu'est-ce qui est le sage par excellence? Vous vous rappelez? Joseph! Joseph! Joseph en Égypte, hein? Joseph était rempli de sagesse. Il avait la sagesse de Dieu. Il dévoilait les rêves du pharaon, etc. Il était à Joseph, allez à Joseph. Que nous établirons responsables pour ce besoin. Vous savez, on a dit qu'on mettait l'argent au pied des apôtres, mais on n'a jamais dit, je voulais souligner, on n'a jamais dit que c'était eux qui distribuaient. Dites-nous d'abord la parole. Nous nous tiendrons fermes à la prière et au service de la parole. Et la parole satisfit en présence de toute la multitude, et ils choisirent Étienne, Stéphanos le couronné, homme plein de foi et d'esprit saint, l'Esprit Saint, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et il vous dit, mine de rien, il y a déjà un petit prosélyte dans la question. Hein? Un prosélyte, ça veut dire un non-juif qui est devenu juif par adoption du même Dieu. Vous voyez que tous les noms sont grecs. Ils placèrent debout en présence des apôtres et ayant prié, ils imposèrent les mains et la parole de Dieu croissait et se multipliait. Le nombre des disciples à Jérusalem fort et une foule nombreuse de prêtres obéissaient à la foi. Quand on parle de prêtres, on parle des prêtres dans le temple, des prêtres sadducéens même. Vous vous rendez compte? Or, Étienne, ce personnage est essentiel, Étienne. Parce que c'est le premier témoin non-apôtre qui va montrer ce qu'est le chemin de l'apôtre. Et donc, il est comme le prototype. Et Shaoul est dans la ligne d'Étienne. Il est dans le sillage d'Étienne. Shaoul n'est pas le premier. Shaoul va venir en plus dans un nouvel étage. Derrière Étienne. Vous allez voir comment Saint-Luc le raconte. Mais regardons cet homme, Étienne, qui est la figure du témoin. Bon, bien sûr que Étienne est un juif, mais d'origine de la diaspora. Plein de grâce et de puissance, faisait de grands prodiges et signes parmi le peuple. Tiens, il fait exactement comme les apôtres. Les prodiges et les signes sont liés à la parole. La parole est toujours active. se dressèrent certains gens de la synagogue dite des affranchis, une synagogue de Jérusalem, et des Cyrénéens, et des Alexandrins, et des gens venant de Cilicie et d'Asie, et une multiplicité de synagogues à Jérusalem, qui regroupaient des gens venant d'un peu partout de la diaspora, discutant avec Étienne. Ils n'avaient pas la force de s'opposer à la sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors ils subornèrent les hommes pour dire « Nous nous trouvons l'avoir entendu parlant des paroles événements blasphématoires contre Moïse et Dieu. » On trouve les mêmes raisons que pour Jésus. Le faux témoin. Ils parlent contre Moïse et contre Dieu. Et ils mirent en effervescence le peuple, ainsi que les anciens et les scribes, et étant servis, ils le maîtrisèrent et l'amenèrent au Sanhédrin. Voilà. Hein? De nouveau, il va subir le même sort que les apôtres. Les apôtres étaient les signes de la présence du ressuscité, Étienne va devenir le signe vivant de la présence du ressuscité, bien qu'il n'ait pas été apôtre. Mais parce qu'il est rempli de l'esprit et de la sagesse de Jésus lui-même. Nous l'avons entendu dire, en parlant, ce Jésus, le Nazaréen, détruira ce lieu, on reprend l'accusation qui a été menée contre Jésus, et changera les coutumes que Moïse nous livra. Et ayant fixé les yeux sur lui, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin virent sa face un peu comme une face d'ange. Il est révélateur de la présence de Dieu. Et alors vous avez ce grand discours sur lequel je ne reviens pas, ce grand discours d'Étienne, qui va raconter à sa manière l'histoire d'Israël. Pourquoi à sa manière? À sa manière pour dire la présence de Dieu nous échappe toujours. On ne peut pas mettre la main sur cette présence de Dieu. Et dans le peuple de Dieu, il y a toujours eu les jalousies. Allusion à la jalousie, le Capharnaüm, des gens de Nazareth contre les gens de Capharnaüm. Il y a toujours eu des jalousies. On a jalousé Joseph, un de ses frères, peut-être de quoi. On a jalousé Moïse. Et en fait, ce qui est important, c'est pas de regarder le rôle humain de ces personnages, c'est de voir ce dont ils sont le signe dans l'histoire du salut. Ils sont le signe de la présence de Dieu. Et Dieu est présent n'importe où. Pas seulement à l'endroit où on lui a fait un temple, où on a construit un temple, mais il peut même être présent dans un no man's land, c'est-à-dire le Sinaï, par exemple. Il peut être présent n'importe où. Donc, l'important, c'est de discerner la présence de Dieu où qu'elle soit. Ceci est déjà un discours de type universel. Dieu pourrait être présent, Jésus pourrait être présent, même chez les païens, éventuellement, même chez les autres, qui parlent une autre langue que la vôtre. Et alors, il vous raconte l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse, une façon de faire spéciale, et puis il nous montre comment celui que Dieu envoie n'est pas accepté. Peut-être un signe pour nous aujourd'hui. Ce Moïse qu'ils avaient renié et ont dit qui t'a établi chef et arbitre, c'est lui que Dieu avait envoyé comme chef et comme libérateur par la main d'un ange, celui qui fut vu de lui dans le buisson, ardent. Celui-ci les emmena dehors, c'est-à-dire les fit sortir d'Égypte, ayant fait des prodiges et des signes en terre d'Égypte. Étienne faisait des signes et des prodiges, comme les apôtres, donc ils sont dans la droite ligne, dans le droit fil de Moïse. Et dans la mer Rouge, et dans le désert, pendant 40 années. Celui-ci est le Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera de vos frères un prophète comme moi. C'est dans le Deutéronome, chapitre 18. Celui-ci est celui qui fut dans l'assemblée, dans le désert, avec l'ange qui lui parlait dans la montagne du Sinaï, avec nos pères, qui reçut pour nous les donner les paroles vivantes, les paroles de la loi, Et les paroles du vivant deviennent les paroles de la grâce que Jésus donne, à qui nos pères ne voulurent pas devenir obéissants. Puisque, à peine après avoir reçu le décalogue, ils font le veau d'or. Mais ils le repoussèrent. Et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. L'Égypte, qui est le territoire de l'idolâtrie. Ayant dit à Aaron, fais-nous des dieux qui feront route par devant nous, car ce Moïse qui nous emmena dehors de la terre d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il lui arriva. Et il fait allusion ici au péché originel du peuple d'Israël, le veau d'or. En ce jour-là, ils fabriquèrent un veau et conduisirent un sacrifice à l'idole, et ils faisaient la fête avec des œuvres de leurs mains. C'est de nouveau Babel, tour de Babel. Or Dieu se détourna et les livra à rendre sans cesse un culte à la ruine du ciel. Puisque vous ne voulez pas Dieu, allez à vos idoles. Dieu est toujours au service de notre volonté. Il ne peut pas faire autrement. Mais il patiente. Selon qu'il se trouve écrit dans le livre des poèmes des prophètes, n'avez-vous pas porté auprès de moi victime des sacrifices pendant 40 années dans le désert, mais en Israël? Et n'avez-vous pas élevé la tente de Moloch et l'astre du dieu Rompha, figure que vous avez faite, pour vous prosterner sans cesse devant elle? Je vous ferai immigrer au-delà de la vie. Autrement dit, vous voulez l'idolâtrie, vous serez enfermé dans l'idolâtrie. C'est peut-être quelque chose qui nous est dit à nous-mêmes. Jusqu'à quel point sommes-nous prisonniers du monde dans lequel nous sommes? Bon. La tente du témoignage était à nos pères dans le désert. Tente du témoignage, c'est-à-dire l'endroit où Dieu résidait. Selon ce que celui parla à Moïse avait donné comme consigne de le faire, suivant la figure qui se trouvait à droite. Et l'ayant reçu en héritage, nos pères la firent entrer avec Josué dans le pays en propriété des nations, que Dieu avait repoussé loin de la face de nos pères jusqu'au jour de David. Donc, la tente qui avait servi pour loger Dieu pendant qu'il faisait route avec son peuple, eh bien, elle est entrée en terre promise. Jusqu'au jour de David, lui trouva grâce en présence de Dieu et demanda de trouver un campement dans la maison de Jacob. Ah, il veut faire construire une maison pour Dieu. Or, c'est Salomon qui lui bâtit une maison. Mais, et voici une corde à veneno, à la fin du discours de poison, le Très-Haut n'habite pas en demeure faite de main d'homme. Il y a constamment eu des tentatives pour emprisonner Dieu. Vous voulez lui construire un temple, très bien, mais ne mettez pas la main sur lui, laissez-le libre. Selon que le prophète dit, et alors il cite le dernier chapitre du livre d'Isaïe, chapitre 66, qui est un des chapitres les plus universels de tout l'Ancien Testament. L'ouverture de la présence de Dieu, absolument universelle, et même aux étrangers et aux eunuques, qui n'avaient pas accès au temple. Le ciel est pour moi un trône, la terre est le marchepied de mes pieds. Donc laissez-le marcher Dieu où il veut. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas un mec qui a fait tout cela? Autrement dit, laissez-moi libre. Et les temples, ce ne sont pas les temples que l'on a construits pour que Dieu y réside. Le véritable temple, comme il était dit avec Salomon, c'est l'homme. L'homme est le vrai temple de Dieu. Et Dieu est libre de vivre dans l'homme comme il le désire. Homme dur de nuque, et voici la révélation du péché. Il est en train de révéler à ces hommes qui le jugent leur propre péché, en bon prophète qu'il est. Homme dur de nuque, et incirconcis de cœur et d'oreille, comme on dit dans l'Exode ou bien dans le livre de Lévitique, vous perpétuellement vous résistez à l'Esprit Saint. Il leur fait la grâce de leur dire leur faute. Vous résistez à l'Esprit. Comme vos pères, vous êtes vous aussi. Le péché originel traverse toute l'histoire.
Il ne faut pas vous étonner que vous soyez infecté par lui aussi.
Lequel des prophètes, vos pères, ne persécutèrent-ils pas? Ils tuèrent même ceux qui avaient annoncé d'avance au sujet de la venue du juste, dont maintenant vous êtes devenus prêtres et meurtriers. Ils dénoncent leurs instincts meurtriers et de prêtres. Vous qui avez reçu la loi par ordonnance d'ange et qui ne l'avez pas observée, et vous n'y avez pas envie. Ça, c'est la dénonciation du péché.
En entendant cela, ils s'exaspéraient en leur cœur, hein, comme le Sanhédrin là tout à l'heure.
Et ils grinçaient les dents contre lui.
Or, étant plein d'Esprit Saint, vous avez Jésus devant vous, plein d'Esprit Saint. Ayant fixé les yeux au ciel, il vit la gloire de Dieu. Vous avez le Fils de l'homme présent. Et Jésus se trouvant debout à la droite.
D'où parle-t-il, Étienne? Il parle du cœur de la Trinité. C'est là son lieu de parole.
Et il dit, voici, j'observe les cieux grands ouverts. Les cieux s'étaient ouverts tout grands lors du baptême de Jésus, pas l'oublier, chapitre 3, 21, dans l'Évangile. Et le Fils de l'homme se trouvant debout à droite de Dieu.
C'est la seule fois dans tous les évangiles que nous trouvons le terme Fils de l'homme dans une autre bouche que celle de Jésus. C'est toujours Jésus qui parle du Fils de l'homme, comme de lui-même, mais projeté dans son destin final de mort et ressuscité. Et ici, voici quelqu'un qui est le porte-parole de Jésus, qui parle comme Jésus.
Et le Fils de l'homme se trouvant debout à droite de Dieu.
Or, ayant crié à grande voix, ils bouchaient leurs oreilles et s'élancèrent d'un même cœur,
comme on était d'un même cœur à la prière, ils s'élancent d'un même cœur sur lui, contre lui. Et l'ayant jeté dehors, hors de la ville, ils le lapidèrent.
Mais la grâce de Dieu est en route. Il est en route à travers cette dénonciation. Il est en route à travers cette mort. Et voici que les Sanhédrites sont en train d'assister à la mort de Jésus. La mort de Jésus ressuscité, bien entendu. Et qui continue de mourir, de souffrir dans son corps, qui est l'Église, c'est-à-dire dans son témoin.
Et voici maintenant le pardon qui est accordé. Et il n'est accordé que d'au-delà de la mort du prophète. Et les témoins mirent de côté leurs vêtements au pied d'un garçon appelé Shaoul. Et voici l'apparition de ce monsieur, Shaoul, l'interpellé, le mis en question, c'est le sens de son nom. Et il lapidait Étienne qui invoquait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et ayant mis les genoux à terre, comme Paul le fera encore, il cria à grande voix, comme Jésus sur la croix, « Seigneur, ne le compte pas ce péché. » Voilà, c'est la parole de pardon qui arrive au moment ultime de la mort du témoin. Comme la parole de pardon dite par Jésus à la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », déclenche le déferlement de la miséricorde sur le monde. Voilà le pardon accordé au Saint-Esprit qui intervient dans la mort du témoin. Or, ayant mis les genoux à terre, comme aussi Jésus à Gethsémani, il pria à grande voix, « Seigneur, ne le compte pas ce péché. » Et ayant dit cela, il s'endormit. Or, Shaoul était approuvant son exécution. Il prépare le chemin pour montrer d'où Shaoul vient. Alors, voyez, je n'ai pas fini, vous avez les sept, puis parmi ces sept, vous avez Étienne, dont on nous dit d'abord qu'il est le témoin tout à fait appliqué, puisqu'il fait ce que les apôtres ont fait. Et vous avez le discours explicatif.
Premier discours, il n'y a pas de Pierre. Jusqu'ici, le porte-parole était Pierre. Maintenant, le porte-parole de l'histoire d'Israël et de son interprétation, ce n'est plus Pierre, c'est Étienne. C'est-à-dire un de la seconde génération déjà. Mais il va être tout à fait témoin authentique. Donc, on montre déjà, mine de rien, le dépassement de la figure des apôtres par les figures d'autres témoins qui prennent leur place, ou plutôt qui prennent le relais sans prendre leur place. C'est plus juste. Ils prennent le relais, mais qui ne se sont pas substitués aux autres. Ils continuent là. Et le discours explicatif va se fixer surtout sur Joseph, sur Moïse, et donc deux personnages controversés. Et pourtant, c'est par ces personnages controversés qu'intervient le salut pour Israël. Par celui, au fond, deux prophètes qui disent vraiment la parole de Dieu. Et donc, ils sont, Joseph et Moïse, deux figures du témoin prises dans l'histoire d'Israël. Ils parlent à des Israélites, ils parlent à partir de leur histoire. Puis, on l'accuse d'avoir parlé contre Moïse et contre le lieu, il parle d'abord de Moïse et dit, voyez, ils sont controversés, pourtant Dieu passe à travers. Et puis, il y a le lieu, la tente, le temple. Vous voulez tout le temps mettre la main dessus et le lieu va toujours plus loin. Le lieu n'est pas dans une maison, le lieu est dans la personne. Ces deux personnages sont controversés, Joseph et Moïse, et la présence de Dieu, tant qu'il y a la présence de Dieu, mais ce n'est pas le temple, c'est l'homme qui a la présence de Dieu. Et le discours d'Étienne tente à montrer que sa propre personne, tiens, dans le texte de Luc, bien entendu, que c'est sa propre personne qui est le témoin.